Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le troisième volet de notre série Dans un monde inégal, qu'avons-nous en commun ? Nous sommes partis des inégalités relevées par Lucas Chancel, c'était lundi. Pauvreté des États versus puissance privée. Puis Nicolas Frémaux, c'était hier soir, a pointé le grand retour de l'héritage. Un facteur d'inégalité en plein essor et dans de très nombreux pays. Un phénomène d'ailleurs assez peu connu. Et nous partons ce soir à la découverte des communs. Eux aussi se portent bien et cette fois c'est une bonne nouvelle. De quoi s'agit-il exactement ? De ressources partagées, gouvernées par des communautés, d'initiatives citoyennes pour une meilleure utilisation et préservation des biens, de règles d'accès à la santé, à l'éducation et au savoir, à l'alimentation, au travail, de respect de la nature également sous toutes ses formes. D'autres pratiques sont possibles. Elles existent déjà, d'autres modes de vie aussi. Mais ils bousculent les modèles éprouvés de nos économies, de nos sociétés le plus souvent. Ils restent limités à des échelles locales et régionales. Ils aspirent à s'étendre, à quelles conditions, avec quel soutien. Beaucoup reste à inventer, mais il y a un préalable, prendre les communs au sérieux. Bonsoir Benjamin Coriat.
Bonsoir.
Benjamin Coriat, donc professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris 13 et qui a coordonné cet ouvrage, après d'autres d'ailleurs, puisqu'il est fait partie un peu des pionniers sur ce thème des communs, sur lesquels nous allons largement revenir, vers une république des biens communs. C'est paru aux éditions des Liens qui libèrent cette année 2018. Définition, elle n'est pas, j'en ai esquissé un petit peu en quelques mots les termes, mais on peut en trouver d'autres. Mais ce qu'on peut déjà relever, c'est que partout dans le monde, hein, Benjamin Coriat, dans les villes, dans les régions, peut-être à un niveau très local, on explore cette question des communs qui pourraient se situer en gros quoi, entre contrôle de l'État et mécanisme du marché. C'est une troisième voie ?
On peut dire ça, mais c'est vrai que pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut voir aussi que ça concerne toutes sortes de biens très différents et que pour mettre de l'ordre, si je peux dire, il faut avoir en tête que ça peut concerner aussi bien des biens physiques, alors des forêts, des lacs, on va y venir certainement, des espaces urbains partagés, hein, le cas des grands voisins à Paris, pour ceux qui ont connu, est très représentatif. Donc voilà, ça c'est une première série de communs. Après, il y a des communs plus immatériels ou carrément immatériels. On pense beaucoup aux logiciels libres, à Wikipédia, aux journaux scientifiques ouverts.
En libre accès.
En
ouais.
libre accès. Mmh. Voilà, donc ça c'est une deuxième famille de communs. Et puis il y a une troisième grande famille de communs qui concerne alors ce que autrefois on appelait souvent les biens publics globaux, hein, c'est-à-dire l'atmosphère, l'océan, les calottes glaciaires, et puis aujourd'hui par-dessus tout le climat, qui sont des biens communs par nature, mais qui, à la différence des précédents, il faut peut-être y revenir, ne sont pas gouvernés ou sont mal gouvernés. Et un des grands enjeux, justement, de la période contemporaine, c'est comment on transforme ces biens communs, qui sont des biens absolument essentiels pour nous-mêmes et pour les générations futures, en communs, c'est-à-dire en ressources qui sont gouvernées. Parce que le propre des communs, c'est qu'ils sont gouvernés. C'est pas simplement des biens en libre accès. C'est des biens qui sont partagés, qui sont de la propriété partagée, mais gouvernés. Et donc dans lesquels on arrive à équilibrer les contraintes et les soucis de l'accès et de l'accès partagé. Ouais. Et de l'intégrité de la ressource.
Alors, on va garder les deux premiers que vous avez mentionnés, c'est-à-dire les communs immatériels. On en parlera demain avec Françoise Benhamou, que vous connaissez bien, économiste de la culture. Et on parlera également des communs, alors mondiaux, ou en tout cas environnementaux, un peu plus tard avec Dominique Dron. On va donc s'arrêter avec vous sur cette définition d'abord. Est-ce qu'on peut parler, on dit aussi bien commun, c'est jouir sans posséder. Il y a quand même une forme de propriété, mais c'est une jouissance partagée.
Voilà.
Ça vous convient, cela, comme définition ?
Oui, à condition de préciser plusieurs choses. Jouir sans posséder, ça me va très bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de propriété. Simplement, il faut se sortir de la tête ce que le Code civil nous a fait entrer, à savoir que la propriété, c'est nécessairement de la propriété privative et exclusive. Justement, ce que montrent les communs, c'est que la propriété peut être partagée est distribué. Donc, il n'y a aucune propriété qui permet d'aliéner, de détruire le bien, etc., comme dans la propriété exclusive et privative, mais le commun distribue des droits d'accès. Si vous voulez, le commun, vous en parliez au cours de la première émission, la notion
avec Lucas Chancel, oui, voilà, sur les inégalités.
Avec Lucas Chancel, vous en parliez dans cette émission, parce que le mot commun, ça vient de l'anglais commons, et les commons, c'était justement des terres en accès ouvert, dont les bénéfices, dont l'usage, étaient partagés par des communautés.
Et profiter à tous.
Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il y a absence de propriété, mais il y a propriété partagée et réglée le plus souvent par des règles d'usage.
Je voulais juste mentionner, pour revenir au cas français, mais on va parler d'autres pays, hein. Il y a des choses très intéressantes qui se passent dans les pays émergents. On pourra peut-être parler du Brésil, par exemple, mais aussi en Italie, plus près de chez nous, et même en France, bien sûr. L'intérêt des intellectuels, dont vous êtes d'ailleurs, puisqu'il y a quelques pionniers comme ça qui ont repéré cette affaire assez récemment, finalement, et notamment à l'occasion de l'affaire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'y reviens parce que il y a eu un collectif, je me souviens, d'intellectuels, entre guillemets, parmi lesquels des philosophes, Isabelle Stengers, que l'on connaît bien ici à France Culture, des anthropologues, Collège de France Philippe Descola notamment, donc extrêmement respectables, qui ont attiré l'attention sur ce qui se passait là, cette interaction, disent-ils, entre habitants historiques, paysans, voisins, même squatteurs, et des économistes aussi, bien sûr. Pourquoi ne pas reconnaître aux ZADIS ce droit à l'expérimentation? Alors bon, on sait ce qu'il en est advenu ensuite, mais sans rester sur ce cas précis, il y a là un intérêt pour une autre forme d'approche de nos économies et de nos sociétés.
Oui, oui, absolument. Mais on peut repartir de ce cas. Et moi, ce que j'ai profondément regretté dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, bon, d'abord, évidemment, je me suis félicité que la décision de pas convertir ces terres humides qui deviennent des terres rares, hein, aujourd'hui.
Oui, il y avait un enjeu écologique.
Il y a un enjeu écologique majeur, indépendamment de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle des terres humides, c'est-à-dire des terres qui retiennent l'eau, et elles ont grandement disparu au cours des 50 dernières années. Et donc, c'était important de les préserver. Bon, donc, ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'il y avait une sortie par le haut qui était possible dans Notre-Dame-des-Landes, et qui, justement, aurait permis de confirmer Notre-Dame-des-Landes comme un commun, c'est-à-dire comme un lieu de propriété partagée. L'État n'avait plus qu'à céder à titre emphytéotique, vous savez, hein, pour de très longues périodes. Voilà, sur un bail assez long. Les terres qu'il avait acquis pour faire un aéroport et dont il n'avait plus rien à faire, au lieu de les redonner à de la privatisation, de les laisser avec un statut, et on aurait pu voir convivre à la fois des petits paysans propriétaires, là où ils existaient, ces nouveaux arrivants qui avaient des projets à la fois de culture biologique, à la fois des projets de production artisanale. Il y avait l'université de Nantes qui était prête à faire un observatoire de la biodiversité. Bref, on pouvait tester toutes sortes de choses et faire de cette grande zone un commun, ce qui avait été commencé, mais qui devait être évidemment cristallisé, formalisé, éventuellement aidé, et il y avait toutes les énergies pour ça.
Dans le domaine de la fabrique urbaine aussi, bien sûr, les communs sont très présents. Vous avez mentionné, c'était un petit peu peut-être anecdotique, mais significatif, effectivement, les grands voisins de Paris, là, dans le 14e arrondissement. Mais il y a des choses beaucoup plus ambitieuses encore. Parce que les communs, ça peut concerner quoi, le logement, ça peut concerner les services, y compris les transports, les bibliothèques à l'accès. Ah ben, je parle des villes cette fois. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
L'espace public, il y a beaucoup de jardins partagés aujourd'hui.
Bien sûr, mais c'est une des forces des communs, c'est que pour l'essentiel, aujourd'hui, c'est un mouvement citoyen. Et donc, c'est un mouvement, en anglais on dit grassroots, hein, c'est un mouvement souterrain qui part de la base et qui porte sur une multiplicité d'objets. Finalement, c'est une décision, tout peut devenir commun. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on a ? On a une forme maintenant qui est extrêmement développée, qui est celle des jardins partagés. L'idée, c'est que à partir d'espaces qui étaient perdus, qui étaient des zones abandonnées, etc., on refabrique des vergers, on refabrique des espaces de loisirs en accès partagé. Ça veut dire que, là encore, il n'y a pas de propriétaire, mais les résidents se mettent d'accord sur des règles d'usage, des règles de prélèvement, etc. Bien, ça, c'est une forme classique. Mais on peut avoir toutes sortes d'autres formes. Je reviens de Barcelone, par exemple. Hein. Bon, à Barcelone, il y avait presque au centre-ville, en tout cas dans un quartier très central, une immense friche industrielle dont la municipalité ne savait quoi faire. Donc après de longues tractations, y compris des luttes, hein, des occupations, ça n'a pas été très simple, finalement la municipalité a donné ce terrain aux habitants, aux résidents. C'est absolument magnifique ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que on a là des ateliers sous forme coopérative, ouais. Donc des cordonniers, hein, et c'est bien utile, hein, les cordonniers par les temps qui courent, des menuisiers, mais aussi on a des jardins partagés, mais aussi on a des espaces culturels, des espaces d'accueil des exilés étrangers perdus, auxquels on donne des rudiments de comportement citoyen dans la ville, qu'on loge en cas d'extrême urgence. Bon, bref, ceci pour dire que l'espace urbain est porteur de toute une série de potentialités. Alors,
il est réapproprié différemment.
Un magnifique exemple que je vais vous donner, qui est à mi-chemin entre le commun matériel et immatériel. À Saint-Étienne, où j'avais été faire une conférence, j'ai rencontré des jeunes créateurs absolument magnifiques, ce qu'ils fabriquent. Alors au départ, c'est des jeunes créateurs, hein, donc c'est des gens qui font des bandes dessinées, de la musique, du théâtre, des nouvelles, etc. Bien, ils ont mis en ligne leur création, et pour y accéder, il faut payer. Donc si vous voulez, jusqu'à présent, on n'est pas dans une logique de commun, on est dans une logique d'offre de service. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris contact avec la municipalité, la bibliothèque municipale. C'est la bibliothèque municipale qui a pris un abonnement global, moyennant quoi toutes les personnes qui fréquentent la bibliothèque municipale ont un accès à ces créations. Et donc, c'est une initiative qui a totalement révolutionné la notion de bibliothèque municipale, et c'est gagnant-gagnant. Ouais. Parce que d'un côté, ces jeunes créateurs trouvent des revenus pour pouvoir continuer leur activité, et de l'autre, la bibliothèque municipale recrute une série de jeunes qui viendraient jamais dans une bibliothèque municipale, mais qui viennent parce qu'ils ont accès à ce commun qui leur est offert par la municipalité.
Ouais. Donc, et cet égard, l'irruption du numérique a été quand même un formidable accélérateur.
Énorme. Je pense que sans le numérique, les réseaux, donc sans Wikipédia, sans Linux, sans tout ça, les communs n'auraient pas l'importance qu'ils ont.
Alors justement, mettons un peu les choses bien au point. On a parlé des communs naturels, vous venez de parler des communs de la connaissance. Qu'est-ce qui ne relève pas du commun aujourd'hui, là? Vous parlez de l'accès à des plateformes numériques.
Oui, alors le commun...
On va être obligé de citer quelques marques, mais bon.
Bon, ben, vous avez tout à fait raison de soulever ce problème.
Les GAFA, c'est du commun?
Bien sûr que non. Le commun a beaucoup de faux amis. Alors, soyons très clairs. Le commun, j'ai dit, c'est... vous avez dit dans votre définition, mais je la reprends, elle me paraît tout à fait appropriée. Le commun, c'est une ressource en accès partagé avec une distribution de droits alloués à différentes personnes ou communautés sur cette ressource et gouvernée pour permettre l'intégrité de la ressource, etc. Alors, il y a des tas de choses qui ressemblent à ça. Google, ça ressemble à ça. Uber, etc., ça ressemble à ça. En vérité, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que, d'une part, dans les vrais communs, la communication, la relation, elle est horizontale. Elle est de type pair à pair. Là, c'est pas du tout ça. Il y a un opérateur qui, verticalement, gère la plateforme, décide qui rentre, qui sort, etc., fixe les prix. Donc, ça fait une très grande différence. Et puis, deuxièmement, même si... à l'intérieur du commun, il peut y avoir des échanges marchands. Hein, vous pouvez acheter un bien. Personne prélève.
Oui, attention, commun ne signifie pas gratuité.
Non,
hein.
Commun ne signifie pas gratuité. D'accord. Parce qu'il faut bien que les commoners vivent. Sûr. Donc, la deuxième différence, c'est qu'on prélève des rentes. Alors, Uber, c'est la caricature. Parce que pour être un chauffeur Uber, il faut signer, personne ne le sait, mais je le dis, il faut signer une charte de 35 pages, hein, de règles de comportement. Ça veut dire que c'est la relation d'autorité typique du salariat qui est à la puissance N. C'est ça le salariat. Le salariat, c'est une relation d'autorité. Bien. Sans les contraintes du salariat,
bien
puisque
sûr.
Les gens
sans
sont des entrepreneurs.
Sans rentrer dans le détail, on voit bien la distinction. En revanche, quand une plateforme propose des services, des échanges, là, on rentre plus dans le commun ou ça n'en est toujours pas?
Alors, si vous voulez, moi...
Je
distingue différents types de plateformes. Il y a des prédateurs, bon, les GAFA sont des prédateurs.
On en a cité, d'accord.
Voilà. Et puis, il y a des ce que j'ai envie d'appeler des entreprises plateformes qui délivrent un service, bon, on va quand même dire...
Les
voilà.
Les voitures, par exemple,
partage
de voitures.
Qui prélèvent un bénéfice au passage, mais je veux dire... c'est pas plus condamnable que le supermarché du coin qui offre un service. Enfin, le supermarché, oui, mais en tout cas, l'épicier du coin qui offre un service. Je veux dire par là que il y a des gradations. Hein. Il y a le commun, il y a l'entreprise plateforme et il y a le prédateur. On n'est pas dans les mêmes ordres de problèmes.
Oui, c'est toute une philosophie, les communs, donc on y insiste. Il y a un aspect évidemment monétaire. Et même, c'est peut-être, alors pour le prendre à l'envers, une des difficultés des communs, c'est de réellement trouver une place dans le marché, enfin trouver une place dans une économie qui est ce qu'elle est et qu'on peut peut-être vouloir changer, mais il faut bien vivre.
Absolument. Il y a certains communs.
Attention, à l'angélisme ou peut-être au dévouement, faire tout gratuitement, c'est pas non plus
non,
ça.
Non, mais je vais être extrêmement clair. À l'intérieur des gens qui s'intéressent aux communs, qui souhaitent leur extension, etc., dont je suis, bien évidemment, il y a des points de vue qui sont pas forcément nécessairement les mêmes. Certains considèrent que le commun a vocation à être quelque chose en plus, et donc que ça soit basé sur de la gratuité, du don, etc., n'est pas gênant. Moi, je partage pas ce point de vue. Je pense que c'est beaucoup trop important, avoir des logiciels libres, c'est beaucoup trop important pour que ça soit entre les mains de hobby. Il faut que on puisse vivre de cette activité-là. Il faut qu'il puisse se développer. Donc, la question qui est un des grands défis qui est posé, c'est quels sont les modèles économiques qui permettent aux communs de se reproduire à long terme et d'offrir les services dont la communauté a besoin. Alors pour certains communs, ça marche tout seul. Par exemple, en Méditerranée, on a ce qu'on appelle des prud'homies de pêche. Alors par exemple, les gens de la prud'homie de Sanary, que je connais bien, c'est quoi ? C'est des pêcheurs qui définissent des règles de pêche sur le littoral et des règles de prélèvement qui leur permettent à la fois de prélever et de vivre et de nourrir la communauté autour et de préserver la ressource halieutique. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Parce que la ressource permet, une fois vendue, la reproduction du commun. C'est la même chose avec le sel de Guérande. Peut-être les gens l'ignorent, mais le sel de Guérande, qui est considéré comme un des meilleurs sels, vendu aujourd'hui dans de très nombreux circuits de distribution, c'est un commun. Et donc, pareil, les gens qui ont fabriqué le marais salant, qui l'entretiennent, bien. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Wikipédia, sa vie pour l'essentiel, de dons et de subventions. Donc la question qui nous est posée, c'est comment peut-on construire des communs qui font que, à la fois, on garantit l'accès, et l'accès des plus pauvres, c'est essentiel dans le commun, la notion d'accès pour les plus défavorisés, est clé. Il y a une notion morale dans le commun.
C'est dans sa philosophie.
C'est une réponse aux inégalités, à l'ensemble des phénomènes que les premières émissions de cette série ont dénoncé. C'est tout à fait lié. C'est une réponse citoyenne, et souvent un peu plus que citoyenne, à ce monde de prédation dans lequel on est en train d'entrer. Donc,
Il faut arriver à vivre, il faut que ça reste rémunérateur.
Alors, il y a plusieurs idées. Par exemple, pour les logiciels, je donne juste cette idée. Par exemple, pour les logiciels, l'idée serait que ceux qui contribuent à la création du logiciel, d'une manière ou d'une autre, alors pour cela, l'accès est absolument libre. Ceux qui n'ont pas participé à la création du logiciel, mais qui voudraient l'utiliser, on leur ferait verser une contribution. Et une contribution qui elle-même serait fonction de leurs revenus. Donc, l'idée, c'est de garantir l'accès, ça reste absolument essentiel, tout en assurant un flux de revenus permettant aux gens qui fabriquent le commun, le gèrent et le développent, de pouvoir continuer à le faire pour le bénéfice de tous.
Celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, Ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe. La puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur. Que l'entraide et le partage, c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul je résiste, ensemble on craint rien. On progresse, on grandit et putain on rigole bien. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de grands corps malades, ensemble, et en compagnie de Benjamin Coriat, prendre les communs au sérieux, c'est notre troisième volet de la série entre inégalités et communs, qu'avons-nous en commun. Benjamin Coriat, vous nous avez bien expliqué, enfin nous avons tenté cette définition des communs, avec également cet aspect économique, évidemment, monétaire indispensable, et cette relation au travail. Quand on parle d'un retour au commun, en fait, ou même d'un nouvel âge des communs, parce que c'est vrai que c'est une notion qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans la situation où se trouve la planète, est-ce qu'on va revenir, je ne sais pas moi, aux coopératives, à la notion de mutualisme, aux associations qui étaient si riches encore au 19e siècle ?
Eh bien écoutez, à la fois oui et non, je m'explique. Oui, parce que sans aucun doute, les communs...
qui n'ont pas cessé d'exister, d'ailleurs je corrige, hein, parce qu'au 20e on les a eus.
Ils n'ont pas cessé d'exister, bien sûr.
Ils ont peut-être perdu un peu de force.
Oui, absolument. Bon, donc oui, parce que incontestablement les communs appartiennent à la même histoire. La coopérative, c'est quoi, hein ? La coopérative, c'est une forme d'entrepreneuriat qui a comme caractéristique de marginaliser le pouvoir du capital et de promouvoir le pouvoir des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Puisque vous avez le principe « un homme, une voix ». Au lieu de une action, une voix, vous avez le principe de ce qu'on appelle les fonds impartageables dans la communauté, ça veut dire non distribuables sous forme de profit. Bien, alors tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour les communs et pour ce qu'on appelle les commoners, parce que ils vont dans le sens de promouvoir la personne, promouvoir le collectif au détriment des détenteurs abstraits du capital qui font la loi et qui retirent tous les bénéfices de l'activité. Alors maintenant, pourquoi les communs ne sont pas les coopératives ? Pour une série de raisons. La première raison, c'est que beaucoup de communs se veulent d'accès large, voire d'accès universel. La coopérative, elle est restreinte aux sociétaires, donc ça fait une différence. La deuxième différence, c'est que la coopérative, malgré tout, elle inclut la relation salariale dont on parlait tout à l'heure, donc la relation de subordination. Donc dans beaucoup de cas, les coopératives sont gérées de manière à atténuer cette relation de subordination et à rendre la gouvernance, on va dire, un peu plus souple, un peu plus douce, un peu plus démocratique. L'exigence du commun, elle est bien plus grande. Elle est du pair à pair, elle est l'égalité. Alors, elle n'est pas forcément réalisée, mais si vous voulez, l'utopie du commun n'est pas exactement la même que l'utopie de la coopérative. Alors, nous qui travaillons sur ces sujets, on parle de plus en plus d'ancien et nouveau coopérativisme. Sans jugement de valeur, hein, simplement pour marquer qu'on entre dans une nouvelle période. Donc c'est vrai que beaucoup de gens qui font des communs s'inspirent des principes de la coopérative, s'inspirent des principes du mutualisme, c'est-à-dire de la mise en commun de ressources, notamment pour les mutuelles de santé, de retraite, etc., en prévision des moments difficiles, mais essaient d'y insuffler la culture propre des Commodores, qui est une culture du pair à pair, une culture de l'égalité, une culture de l'ouverture.
Autre distinction peut-être très importante, puisqu'on en parle de plus en plus, l'économie sociale et solidaire. Qu'en faites-vous dans ce contexte? Je rappelle, une économie qui, effectivement, telle que son nom l'indique, se veut différente d'une économie de marché, prend nettement ses distances avec elle, mais qui est quand même très fragmentée, très localisée. On va revenir sur cet aspect local.
Oui.
Et pas toujours efficace encore.
Oui, aujourd'hui on a de tout dans l'économie sociale et solidaire. Je veux citer personne, mais il y a des grandes coopératives bien connues.
Il y a de très belles réussites.
Il y a de très belles réussites, il y a de très très belles réussites, mais il y a aussi des choses qui sont, dont on peut pas s'inspirer. Voilà, on va citer une coopérative étrangère, Mondragon, c'est très bien, mais à l'intérieur de Mondragon...
C'est Mondragon, il faut dire un peu plus.
Ah oui, c'est une très grande coopérative espagnole, où il y a plusieurs milliers de personnes, et qui en s'étendant, en devenant coopérative de coopérative, n'a pas étendu les mêmes droits pour tout le monde. Et donc, d'une certaine manière, les derniers arrivés et le bout de la pyramide... Et pas du tout dans une situation extrêmement enviable. Alors, dans l'économie sociale et solidaire, ce qui nous intéresse, c'est à la fois un certain nombre de formes sociales innovantes, la coopérative, la mutuelle, en plus, il y en a différentes formes, mais c'est aussi le mot solidaire qui nous intéresse, parce que dans le mot solidaire, il y a l'idée que on ne fait pas seulement l'activité et l'égalité entre soi et pour soi, comme dans une coopérative tout court, on l'a fait avec le souci de l'autre, on l'a fait avec le souci de l'environnement, on l'a fait avec le souci de l'écosystème, et quand je dis écosystème, c'est à la fois social et naturel, qu'il y a autour. Parce que si vous voulez, dans le commun, il y a ce souci-là, il y a ce souci que il faut œuvrer pour l'ensemble de l'environnement, à la fois social et écologique. Donc, là aussi, c'est un point de contact entre la projection que font d'eux-mêmes les gens à l'origine des communs et l'économie sociale et solidaire. Mais je répète, c'est le mot solidaire qui nous intéresse là.
Mais c'est quand même au cœur du débat. Tout le monde n'est pas complètement d'accord.
Non, si vous voulez, il y a quand même un large consensus. Ouais. Il y a un large consensus sur le fait que il y a des valeurs partagées, mais que c'est pas l'économie sociale et solidaire qu'on veut faire. C'est autre chose. Ouais. C'est une société du commun.
Qu'est-ce qui fait qu'on y arrive maintenant au commun? On connaît quelques éléments de réponse, mais il y a quand même un essor, je l'ai précisé assez important.
Oui, il y a deux choses. Je pense, un, la crise sociale, deux, la crise écologique. Alors, la crise sociale, c'est les questions que vous avez déjà abordées au cours des précédentes émissions, la montée absolument astronomique des inégalités, le cynisme dans lequel on est entré, en matière de prédation, d'accaparation, etc., qui fait que il y a à la fois une réaction de révolte et une réaction de besoin. C'est-à-dire que les gens ont re-besoin de se mettre ensemble, une partie d'entre eux, pour survivre. Et il y a aussi la dimension de révolte, c'est-à-dire on n'accepte pas cette société, on veut faire autrement. Vous en parlerez peut-être demain ou dans une prochaine émission, mais à l'origine des logiciels libres, il y a la volonté, par les pouvoirs publics américains, d'introduire la brevetabilité des logiciels et d'introduire la brevetabilité des gènes humains. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une immense révolte en disant non, ça c'est du domaine commun et ça doit rester du domaine commun. Donc révolte contre les conditions qui poussent de nouveau à se mettre en commun et révolte contre le modèle de société qu'on veut nous imposer. Stallman, qui a inventé le logiciel libre, a simplement dit non.
C'est pas ça qu'on veut.
Le logiciel est dans le commun et il va rester dans le commun. Et il a inventé des formes pour que ça reste dans le commun. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est la crise écologique. Vous aurez sans doute l'occasion
On va en parler plus largement.
Bon, mais... le climat, l'atmosphère, etc., fait que aujourd'hui, les gens ont vraiment le sentiment, c'est le cas de le dire pour les communs, ont le sentiment d'être dans le même bateau, et que si on s'y met pas tous à gérer ces biens communs, si on laisse les prédateurs continuer à les détruire comme ils le font, on n'en sortira jamais. Donc, il y a cette double dimension révolte contre la montée des inégalités et le type de société que ça implique, qui est une société d'exclusion, alors que le commun veut refabriquer de l'inclusion, et souci du bien commun dans sa dimension d'écosystème, à commencer par la planète, parce que plus personne ne s'en soucie. Ces deux déterminations sont très fortes.
Deux points encore, Benjamin Coriat, là, on va parler du rôle de l'action publique, ça me paraît indispensable. Enfin, il est évidemment, j'imagine, au cœur du processus, il ne s'agit pas de l'éliminer. Et auparavant, le problème quand même, parce qu'il me semble que ça en est un majeur, c'est que tout cela reste très, vous avez cité l'expérience de Barcelone, très intéressant, des jardins partagés dans beaucoup d'endroits, mais ça reste très local, au mieux régional, et plutôt local. Donc c'est très sympathique, on peut vous dire peut-être avec un peu d'ironie.
Oui,
comment aller plus loin?
Ça
va être l'addition d'autant de petites expériences locales qui vont marcher, ou est-ce qu'il va y avoir une dimension supérieure?
Ça va être deux choses. Ça va être, d'une part, l'extension de ces dimensions locales, la connexion entre elles, etc. Et ça va être, alors j'espère que vous êtes bien assise, mais parce que c'est très important, ça va être la refondation du service public sur la base du commun. Ça veut dire que, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, je laisse de côté pour le moment le service public, mais le domaine public, il y a une espèce de catastrophe qui est que historiquement, la chose publique, la res publica, c'est une chose inappropriable qui doit être retirée du commerce. Chez les Romains, la res publica, la chose publique, la chose décidée telle, publique, commune, par délibération, ça peut être l'eau, ça peut être l'éducation, ça peut être une place, elle est retirée du domaine marchand, et l'État est le simple gestionnaire au profit du peuple. Il y a eu une catastrophe juridique qui est que le domaine public, c'est devenu de la propriété publique. Et maintenant, on vous privatise à tour de bras des aéroports, des immeubles. Il faut refonder le domaine public et il faut refonder le service public comme un bien commun, c'est-à-dire un bien protégé en dehors de la propriété.
Et
on n'y touche pas.
Mais vous êtes économiste, Benjamin Coriat. Donc, par exemple, est-ce que toute cette vague très importante, elle est depuis déjà pas mal d'années, de partenariats public-privé qui permet à l'État de pallier un peu à son manque d'argent et de créer... Pour vous, c'est très critiquable? Ou vous voyez quelques...
Écoutez, sur le principe, pourquoi pas, mais l'expérience qu'on a des partenariats publics-privés, elle est pas bonne. Enfin, à l'occasion du conflit sur la SNCF, on en a reparlé. Les quelques partenariats publics-privés qu'on a eus sur des lignes locales, elles ont tourné à l'enrichissement des privés.
Il n'y a pas d'exemple ailleurs, parce qu'on...
Oui,
pas
il peut y avoir des exemples positifs, mais si vous voulez, il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvente une manière pour la puissance publique de se comporter. C'est-à-dire une manière dans laquelle elle est en charge du bien public, elle administre le bien public, mais pour le compte du public. Donc, la notion de démocratie participative doit être enrichie, revitalisée. On peut pas donner un blanc-seing une fois tous les 5 ans. En plus, souvent, le seing, il prend des choses qui ont même pas été données dans le vote. Vous voyez, bon. Donc, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on pourra pas faire une société du commun si on ne restitue pas une société dans laquelle les agents publics sont les commis du peuple et pas l'inverse. C'est-à-dire que je suis économiste, dans une relation principal-agent, le principal, c'est le peuple et l'agent, c'est l'État et pas l'inverse. Et il s'est instauré l'inverse.
Il y a eu un glissement. Voilà. Bon, selon vous, ça veut dire que vous êtes au fond pour des partenariats publics communs, PPC.
Ah, voilà. Donc ça irait mieux. Ça irait mieux, des partenariats publics communs. Encore faut-il...
À quelles conditions, voilà.
Voilà. Encore faut-il définir précisément. Un commun, c'est un système de droits et d'obligations autour d'une ressource. Encore faut-il, là encore, définir précisément quels sont les droits et les obligations de chacun, aussi bien de la puissance publique que de la chose gérée par les commoners. Mais, et là, moi, je me sépare d'un certain nombre d'autres gens, je pense que l'investissement de l'État dans le commun sera un moment très important de l'extension du commun, de sa consolidation, etc.
Les États actuellement, pardon, j'interromps, mais quels sont les États en ce moment que vous sentez très favorables? Parce qu'on a dit, là on parle beaucoup de la France, on a cité Barcelone, on peut parler de l'Italie, c'est intéressant aussi, oui. Mais ailleurs même,
Si vous voulez,
il faut, vous sentez assez favorables.
Il faut distinguer puissance publique et État.
D'accord.
Bon, ça veut dire que au niveau étatique, proprement dit, on a pour le moment peu d'expérience. L'Équateur, à un moment, a eu une réflexion là-dessus, autour de la notion de « buen vivir », hein, autour de la notion de « vivre bien », qui est très proche et qui est une notion indigène ancienne, et qui est très proche de la notion de bien commun.
Le Brésil de Lula, c'était un petit peu ça ou pas ?
Non, le Brésil de Lula est resté dans une conception social-démocrate de redistributive. Mais l'Équateur, oui, hein, y compris dans la Constitution. On a introduit des choses nouvelles qui relevait du commun. Malheureusement, il y a eu ensuite des changements de rapport de force au sein de l'État. Ça a un peu disparu. Par contre, au niveau des villes, alors le mouvement est très fort. Vous citiez Barcelone, il y a toute une série de choses qui se font.
Bologne en Italie.
Mais beaucoup plus que Bologne, mais l'Italie en général. Alors en Italie, on en parle d'ailleurs dans le livre qu'on vient de publier. En Italie, il y a une organisation qui s'appelle l'APSUS, qui se dédie à la promotion du commun, qui regroupe en particulier des juristes, qui ont fabriqué des espèces de contrats types, hein, et qui sont des chartes qui lient des groupes de citoyens et des municipalités pour le développement de communs locaux. Alors ça peut être la réfection d'une école qui a été abandonnée.
Oui, ça va loin, être... même l'organisation des transports. Enfin, ça peut
l'organisation des transports, etc. Et il y a 128 villes qui ont développé ce type d'activité, et dans chacune des villes, il y a plusieurs communs, quelquefois plusieurs dizaines de communs. Donc, autant à un niveau d'État central, on est encore au tout premier balbutiement, autant au niveau municipal, c'est en plein développement. Mais je veux dire, là, je n'exagère rien. C'est en plein développement.
Ce qui se passe à Barcelone, notamment, vous l'avez déjà mentionné.
Ce qui se passe à Barcelone est tout à fait spectaculaire de ce point de vue.
Un peu pionnier, même, de ce point de vue. Là, oui, on parlait donc de la manière dont les politiques, en général, peuvent comprendre ou accepter ou prêter une oreille favorable à ce phénomène, hein, parce que c'est quand même un phénomène.
Oui.
On peut parler des pays en développement. Vous avez parlé de l'Amérique latine,
vous avez cité
l'Équateur,
mais
en Inde notamment, on a ces
formes d'organisation. Oui, bien entendu. En Inde, et même je vais vous surprendre, mais j'avais été invité en Chine à faire une conférence sur ces sujets, et à ma grande surprise, ma conférence avait eu énormément d'impact. C'est pas ma conférence, c'est le thème, parce que ils sortent d'une période, enfin, ils ont connu une période d'étatisme, etc., absolu, dans lesquelles, ça n'allait pas. Et puis maintenant, on leur vend une espèce de capitalisme sauvage, ça ne leur va pas du tout. Et ils ont tout d'un coup découvert la propriété partagée, un système de droits et d'obligations, d'accès garanti. Visiblement, ça faisait écho. Autre exemple du Sud, en Bolivie, où il y a eu des guerres de l'eau absolument formidable parce que c'est une ressource extrêmement rare, et ben aujourd'hui, dans des parties très importantes du territoire et des villes, l'eau est distribuée par des coopératives de citoyens, gérées par des coopératives de citoyens. Et ce que je vous disais tout à l'heure, commence à connaître un début de résolution. Il y a dans la constitution bolivienne une notion de coopérative de service public. J'ai bien dit coopérative de services publics. Donc, vous voyez, on a fabriqué une entité juridique nouvelle qui correspond à cette idée que le commun, c'est pas de la propriété publique, c'est pas de la propriété privée. Quand je suis tombé là-dessus, franchement, j'étais en arrêt.
Et
coopérative
content.
De services publics.
Et content.
Ça veut dire qu'il faut, bien sûr.
Ça veut dire qu'il faut passer par le droit, Benjamin Coriade, pour s'en
sortir. Oui, bien sûr.
Indispensable.
Ah oui, à un certain moment, si vous voulez, au départ, un commun, c'est une initiative citoyenne, donc c'est largement informel. Mais si on veut prendre les communs au sérieux, ce qui est mon cas, il faut leur permettre de s'installer, de vivre durablement. Donc il faut des formes juridiques nouvelles, innovantes, et il faut des modèles économiques. Parmi les formes juridiques nouvelles, en France, on va en dire un mot, la loi sur l'économie sociale et solidaire permet la création d'un nouveau type de coopérative, ce qu'on appelle les SCIC. Oui, la loi Hamon. Elle permet les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Alors ça a comme caractéristique qu'il y a une pluralité d'acteurs, donc de la ville, des citoyens, des professionnels, etc., qui peuvent participer à la gouvernance. Et pour ne rien vous cacher, de très nombreux communs, Commoners, etc., qui cherchent à se consolider, choisissent le statut de SIC pour développer leurs activités. D'ailleurs, le cas que je donnais à Saint-Étienne de cette alliance entre des jeunes créateurs et la bibliothèque municipale, c'est une SIC qu'ils ont fabriquée. Ouais. Oui, il faut de la créativité juridique. Et moi, je suis de ceux qui pensent que, oui, absolument, il faut que ces formes s'institutionnalisent, permettent à ceux qui les font vivre de vivre eux-mêmes pour que ça devienne des formes économiques et sociales importantes et, pourquoi pas, un jour majeures dans l'économie.
On a parlé du travail, hein, des formes nouvelles forcément de travail. Et c'est vrai que de toute façon, elles sont là, les formes nouvelles de travail. Il a beaucoup changé. Ça veut dire aussi, alors, convaincre l'entreprise traditionnelle, je ne parle pas évidemment de ces entreprises d'économie sociale et solidaire, ça veut dire aussi parler autrement des temps de vie, c'est-à-dire de l'association entre travail, temps libre,
tout à fait.
Temps rémunéré, temps donné.
Tout à fait. Il y a deux dimensions, vous les avez bien pointées. Il y a une dimension qui est, qu'est-ce qui se passe dans le travail lui-même ? Alors c'est vrai que les commoners sont porteurs de valeurs, d'égalité, de créativité, etc. Je voudrais qu'on prenne ça très au sérieux. Hein. C'est dans les communs historiques, ceux de l'Angleterre du XVIIIe siècle, ce qui était très important, c'était que c'était des travailleurs autonomes, c'était des travailleurs indépendants, c'était des travailleurs qui n'avaient pas besoin de vendre leur force de travail. Et ça crée des situations, des modes de socialité tout à fait particuliers. Le commun est porteur de ça. Donc, il faut que le commun, en rentrant dans l'institution, en rentrant dans la coopérative, en rentrant dans la mutuelle, amène ces valeurs-là et amène des transformations dans les relations entre agents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui doivent décider, bien sûr. Il y a toujours des gens qui doivent décider dans une
entreprise. Oui, ça peut être une forme verticale quand même, c'est pas non plus...
Oui, c'est ça. Il peut y avoir des modes de prise de décision qui ne sont pas antidémocratiques. On peut très bien concilier ces deux choses-là, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, autant j'insiste pour que le commun permette aux gens de se reproduire, autant il est important qu'il y ait du don, qu'il y ait de la gratuité, donc qu'il y ait des temps libres donnés au travail ou que le travail donne des temps libres. Donc effectivement, il faut repenser ça. Juste un mot, beaucoup de supermarchés coopératifs sont en train de se développer, il y en a plusieurs à Paris. Le modèle, c'est quoi ? Le modèle, c'est chacun qui entre dans la coopérative et qui va donc bénéficier de ses services, etc., donne 3 à 4 heures de travail par mois à la coopérative.
C'est vrai.
Bien. Et ça permet de baisser le coût de gestion de la coopérative et d'acheter des produits de qualité et de les vendre pas trop cher. Donc vous voyez, il faut vraiment inventer des modèles.
J'espère, Benjamin Corrias, que vous avez convaincu beaucoup de monde. En tout cas, vous êtes convaincu. Et je crois que cela s'entend très bien. Je voudrais renvoyer à l'ouvrage que vous avez coordonné, mais pas tout seul. Je vais citer vos autres, les autres
bien
auteurs,
sûr.
Et puis il y en a beaucoup d'autres à l'intérieur du livre. Nicolas Lix, Jean-Louis Bancel, Frédéric Sultan, et donc vous-même, ça s'appelle « Vers une république des biens communs », et c'est paru il y a assez peu de temps, hein, je crois. C'était
au début septembre.
Très bien, aux éditions des Liens qui libèrent. Et nous, on va poursuivre demain, effectivement, cette discussion en parlant des biens immatériels. On sera en compagnie de Françoise Benhamou, économiste de la culture, sur tous ces aspects, y compris l'aspect des brevets. On l'a très vite évoqué. Merci encore à vous, Benjamin Corriat.
Merci.
Et merci à notre petite équipe aujourd'hui. Anne-Laure Chanel, comme chaque soir, en compagnie de Bruno Gagnère et Amine El-Mansouri. Merci aussi à Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, qui s'occupe de la préparation et de la documentation. Beaucoup de titres à vous suggérer pour ces 5 émissions. N'hésitez pas à aller sur notre site. Et si vous souhaitez donner votre avis aussi, et si vous souhaitez tweeter, c'est @domrousset. Très bonne soirée, à demain.